Voilà, alors ce sujet, Jésus annoncé par l'Ancien Testament, c'est un beau sujet, c'est un sujet que personnellement j'aime beaucoup, parce que cet aspect de la personne du Seigneur Jésus est une de celles qui me donne la plus grande certitude quant à ma foi chrétienne. C'est que Jésus a été annoncé par l'Ancien Testament. Et donc, je vous propose de regarder ce sujet sur deux aspects. Sous deux aspects, donc une approche qu'on va qualifier de apologétique, c'est-à-dire un petit peu polémique, comme si on était dans un débat avec les Juifs, par exemple, avec la question qui va se poser à nous, Jésus de Nazareth est-il le Messie, annoncé par l'Ancien Testament? Avons-nous raison, nous chrétiens, de penser que Jésus était bien le Messie attendu par les Juifs? Ce qui donne bien sûr de la valeur à sa venue. Et puis une approche plutôt contemplative entre chrétiens. On va se poser aussi la question suivante, peut-on voir Jésus dans les Écritures? Allons-nous trouver dans l'Ancien Testament certains récits ou certaines images qui vont nous permettre de mieux connaître le Seigneur Jésus? Alors pour ça, je vais me baser sur plusieurs choses. Tout d'abord des prophéties anciennes, je dirais d'avant l'exil, qui va être un petit peu un repère pour ce qui est assez ancien, des psaumes messianiques aussi. Surtout de David, mais pas seulement de David, et puis des prophéties vraiment messianiques, alors qui annoncent la venue de ce libérateur, plutôt après l'exil. Et puis il y a également des allégories, c'est-à-dire des histoires, des images, des récits de l'Ancien Testament, dans lesquels on va trouver des similitudes avec ce que le Seigneur Jésus a vécu sur la terre. Voilà. Donc c'est à la fois des annonces par des prophètes qui ont annoncé la venue d'un Messie. Ou alors des récits de l'Ancien Testament derrière lesquels on voit en filigrane quelques aspects de la vie du Seigneur Jésus. Alors, commençons par des prophéties anciennes. Dès le livre de la Genèse, on peut trouver sous certains aspects une annonce de la venue d'un sauveur. Parce que déjà, au moment de la chute, au moment du début de la chute de l'humanité, quand Adam et Ève ont désobéi, Dieu dit au serpent, je passe directement à la fin du paragraphe. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Alors, on peut voir bien sûr un aspect très concret, c'est que les humains marchent sur les serpents et que les serpents leur mordent les pieds. Bon, ça c'est vrai. Mais on peut voir aussi dans cette semence de la femme, un homme issu de la descendance de la femme qui va vaincre ce serpent, qui en réalité Satan. Vous voyez déjà l'annonce d'un humain qui va vaincre Satan. Et cette prophétie s'accomplit quand on lit dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, que quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né de femme. Jésus est né de femme. D'ailleurs, il n'est pas né d'homme, hein, au passage. Né de femme par l'action du Saint-Esprit. Et donc, c'est lui qui a été celui qui a vaincu le diable. Donc, vous voyez, dès le début de l'histoire de l'humanité, on a déjà un petit indice qu'il y aura un libérateur, un sauveur. Ensuite, dans des prophéties prononcées par Jacob concernant ses descendants, donc Jacob c'est Israël, le fondateur du peuple d'Israël, il s'adresse à Judas et ensuite à Joseph. Et on peut voir dans la descendance de l'un et de l'autre l'annonce du Messie. De Judas, il est dit que le sceptre ne se retirera point de lui et à lui sera l'obéissance des peuples. Donc de la descendance de Judas viendra un roi qui soumettra les peuples du monde entier. Et effectivement, Jésus est, on va dire administrativement, descendant de Judas par Joseph. Et puis, par Joseph, le mari de Marie, bien sûr, hein. Et puis, il y a l'autre Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob, auquel il est dit une autre prophétie, qui évoque aussi le Messie promis. Joseph est une branche qui porte du fruit par-dessus la muraille. Alors, la muraille, c'est toujours ce qui symbolise les limites du peuple de Dieu, hein. Donc, il va y avoir ce descendant de Joseph, d'une certaine manière, qui va former un peuple pour Dieu au-delà de cette muraille, au-delà du cercle restreint des Juifs. De là est le berger, le bon berger. Et puis, ces bénédictions vont jusqu'au bout des collines éternelles. Donc, une bénédiction à caractère éternel qui va venir de cet homme qui viendra. Donc, on peut dire que Jésus est le descendant de Judas sur le plan administratif. Par contre, sur le plan spirituel, il serait plutôt ce prolongement de ce qu'a été Joseph pour ses frères, qui a été le sauveur un peu de sa famille et du peuple d'Égypte. Donc Jésus aussi s'inscrit dans la lignée de Joseph, sur un plan spirituel. Ensuite, dans le livre des Nombres, dans le livre du Deutéronome, il est annoncé, c'est Moïse qui dit que ce qui arrivera, c'est que parmi les descendants de Jacob, un souverain surgit au milieu du peuple d'Israël. Une étoile apparaît parmi les descendants de Jacob. Donc quelqu'un qui a une aura particulière qui descend d'Israël. Et puis également, un peu plus loin, dans le Deutéronome, « Je leur susciterai un prophète comme toi. » Alors c'est Dieu qui parle à Moïse. « Du milieu de leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors bien sûr, certains diront, il s'agit peut-être de Josué, le successeur de Moïse. Mais bon, on a l'impression quand même que ça va un peu au-delà. C'est quelqu'un qui vient du milieu d'Israël. On a vraiment l'impression que l'aura de ce personnage va dépasser les limites d'Israël parce qu'il a vraiment les paroles de Dieu dans sa bouche. Le Verbe, la parole de Dieu qui vient sur la terre. Et puis également, Dieu dit à David qu'il aura un successeur. Alors on comprend d'après le contexte qu'il s'agit encore une fois d'une prophétie à court terme, a priori. Il s'agit de son fils Salomon. Lui me bâtira une maison, j'affermirai son trône, mais là on lit pour toujours. Alors là on commence à comprendre qu'il doit y avoir un souverain qui viendra plus tard, qui va avoir un trône affermi pour toujours, un royaume éternel. Moi je lui serai pour père et lui me serai pour fils. Ah là ça devient... On comprend qu'on dépasse un peu la prophétie à court terme concernant Salomon. Ce roi sera le fils de Dieu. Je ne me retirerai pas d'avec lui ma bonté comme je l'ai retirée de celui qui a été avant toi, et je l'établirai dans ma maison et dans mon royaume à toujours, et son trône sera affermi pour toujours. On sait que Salomon et ses descendants n'ont pas été rois d'Israël à toujours. Donc ça veut dire qu'il y aura un roi qui va venir plus tard, qui lui régnera à toujours. Donc ça, ce sont des prophéties anciennes. Mais ensuite, c'est vrai que l'espérance des Juifs par rapport à un Messie vient essentiellement du livre des psaumes. Parce qu'il y a beaucoup de psaumes qu'on appelle messianiques. Au moins 28, qui évoquent la venue d'un sauveur, d'un libérateur. La plupart sont de David. Parmi ces 28, personnellement, j'en compte 23 qui sont de David. Mais il y a aussi quelques autres auteurs. Ceux que j'ai numérotés en rouge, les numéros qui sont inscrits en rouge, sont des fils de Corée. Le 78, il est d'Azaph. Et puis le 89, il est de Étan. Bon, mais enfin, ce sont surtout des psaumes de David qui annoncent la venue d'un roi. Et c'est ce qui fonde l'espérance messianique des Juifs. Alors, évidemment, ça serait très très long de lire tous ces psaumes et de regarder tout ce qu'il est dit du Messie. J'ai essayé de faire un petit peu un résumé. Les psaumes ne sont pas par ordre chronologique, mais j'ai essayé de regrouper plusieurs aspects par rapport au Messie. Tout d'abord, sur la vie du Messie. Sa venue est annoncée par le livre. Bon, c'est de ce dont on parle. Le roi est aussi le fils de Dieu. On lit ça dans le psaume 2. Et Jésus est le fils de Dieu. Ses délices, il trouve ses délices dans la loi de Dieu. Il parle en parabole, ce qu'a fait Jésus tout au long de son ministère. Il est accueilli comme un sauveur. Il est haï sans cause. Il est la pierre d'angle rejetée. Par rapport à sa mort, il est trahi par un ami. On trouve ça dans deux psaumes. Quand on vient pour le chercher, ses ennemis tombent par terre. Il est abandonné de tous. Il subit le châtiment de Dieu. On lui dit que Dieu le délivre s'il l'approuve. Il est crucifié. Alors, c'est pas dit qu'il est crucifié, mais vous allez voir, on lira tout à l'heure dans le psaume 22. On a vraiment l'impression que c'est la description d'un crucifié. Ses vêtements sont partagés. Il est abreuvé de vinaigre, abandonné de Dieu. Il remet son esprit à Dieu. Aucun de ses os n'est cassé. Il est fait un peu moindre que les anges. C'est-à-dire qu'il, du fait qu'il meurt, il passe à un moment donné à un état inférieur aux anges. Et puis, il meurt à la moitié de sa vie. On y reviendra. Des prédictions sur la suite. Il ressuscitera, deux psaumes le mentionnent. Il est élevé au ciel, il s'assied à la droite de Dieu. Il faut honorer ce fils. Il donne naissance à un peuple nouveau. Le souvenir de ses souffrances et de sa mort est institué. C'est un roi qu'il faut adorer. Il va régner sur toute la terre et son règne sera éternel. Tout ceci est dit de ce roi futur qu'attend Israël. Et quand on connaît la vie de Jésus, eh bien on est frappé par la correspondance. Je prends quelques exemples. Dans le psaume 2, Dieu dit « Moi j'ai établi mon roi, par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Vous voyez, ce roi est en même temps le fils de Dieu. Et ça, pour les Juifs, c'est quand même extraordinaire. C'est une affirmation extraordinaire. Que le roi, le Messie, soit en même temps le fils de Dieu. Dans la crainte, servez l'Éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Ô fils, rendez votre hommage. Voilà. Il faut rendre honneur à ce fils qui vient, ce Messie qui vient. Il est absolument essentiel de lui rendre hommage pour éviter qu'il s'irrite et que vous ne périssiez tous dans la voie que vous suivez. Et ça nous fait vraiment penser à ce qui est dit dans Jean 3, verset 36. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà, un roi qui est en même temps le Fils de Dieu. Également dans le psaume 22, la manière dont sont décrites les souffrances du Messie. Je suis répandu comme de l'eau, tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire, il est fondu au-dedans de mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme un thé, et ma langue est attachée à mon palais. Et tu m'as mis dans la poussière de la mort, car des chiens m'ont environné. Une assemblée de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je ne vais pas plus loin, bon, il y a aussi le partage des vêtements. Mes os se déjoignent, la description de ce que ressent un crucifié, qui est pendu par les bras, par les pieds, donc qui est en quelque sorte écartelé. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ceci a été écrit environ plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, à une époque où la crucifixion n'est pas pratiquée en Israël. Et on a là quand même, d'une manière aussi très surprenante, à l'avance l'annonce de la nature, de la mise à mort que va subir le Messie. Et puis ces souffrances, ô Dieu, les eaux me sont entrées jusque dans l'âme, vous voyez, non seulement des souffrances physiques, mais des souffrances intérieures, parce que le Messie porte les péchés du peuple. Le zèle de ta maison m'a dévoré, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Donc, vous voyez, à la fois abandonné de Dieu, parce qu'il porte les péchés de l'humanité, et en même temps rejeté par les hommes. J'ai cherché quelqu'un qui eut compassion de moi, il n'y a eu personne. On se souvient qu'à la croix, tous l'ont abandonné. Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Bon, ceci aussi s'est réalisé au moment de la crucifixion. Vous voyez, 1000 ans à l'avance, 1050 ans environ à l'avance, David, dans ses psaumes, décrit des choses qui correspondent vraiment mot pour mot à ce que connaît un crucifié et ce qu'a connu Jésus. Et puis, un petit détail aussi dans le psaume 102, il a abattu ma force dans le chemin, il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas la moitié de mes jours. Tes années sont de génération en génération. Alors, la moitié de mes jours, qu'est-ce que ça veut dire? On lit dans un autre psaume, le psaume 90, que si nous avons suffisamment de vigueur, nos jours montent à 70 ans. Voilà, c'est un petit peu la norme pour l'époque, pour un être humain. Il vit environ jusqu'à 70 ans. Alors, que veut dire la moitié de mes jours? Bien, environ 35 ans. Et on sait que Jésus a été crucifié à environ peut-être 33, 34 ou 35 ans, puisqu'on pense qu'il est né entre moins 4 et moins 5, et qu'il a été crucifié en l'an 30. Vous voyez, ça correspond bien à la moitié des jours d'un être humain moyen. Alors ensuite, il y a des prophéties messianiques. Et en réalité, si on regarde dans tous les livres des prophètes, d'après l'exil, mais aussi, bon, parmi ces prophètes, certains sont un petit peu avant l'exil, hein, tous les prophètes qui sont donc à la fin de l'Ancien Testament, dans chacun, vous allez trouver au moins un verset qui parle du Messie et qui évoque d'une certaine manière ce que Jésus a fait. Alors, ça serait trop long, encore une fois, de le passer en revue. Je vais me focaliser sur quelques exemples. Là encore, j'essaie de dresser une sorte de bilan en prenant un petit peu dans tous les prophètes sur sa vie. Il a une origine éternelle. Il a la divinité. Il naît à Bethléem. C'est le passage bien connu de Michée. Il naît d'une vierge. Il fuit en Égypte. Il a un message de bonne nouvelle. Il entre à Jérusalem sur un ânon. Sa mort en l'an 30. Alors j'essaierai de vous démontrer pourquoi tout à l'heure. Il est vendu pour 30 pièces d'argent. Il est silencieux devant ses accusateurs. Il est accablé de coups et de crachats. Il est mis au rang des malfaiteurs. Son corps est transpercé, encore une fois. Ses mains blessées. Il prie pour ses bourreaux. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il subit le châtiment de Dieu. Il meurt. Il est mis dans le sépulcre d'un riche. Et puis pour la suite,